Allez, il est temps de retrouver notre camarade Thibaut de Saint-Maurice dans votre petite philosophie de la vie quotidienne. Que vous inspire notre sujet du jour ?
Ben Ali, on en a parlé déjà un petit peu, mais il est temps, je crois, de poser clairement la question donc de l'obsession de la taille, c'est-à-dire pourquoi sommes-nous les hommes, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux, obsédés par la taille de notre sexe ? Au repos donc ou en érection, c'est la guerre des centimètres et donc semble-t-il, plus c'est grand, plus c'est large, plus c'est gros, et ben mieux c'est. Alors la moyenne dans nos esprits importe peu. L'obsession de la taille, c'est l'obsession d'un excès quantitatif. Mais il semble que cette obsession repose sur un malentendu, parce que en fait, c'est pas tellement le pénis que l'on mesure, mais le phallus. Alors, la différence entre les deux, c'est que le pénis, c'est un organe, et que le phallus, en fait, c'est une idée. Le phallus, c'est la représentation idéale du pénis. Le phallus, c'est donc une construction culturelle, une construction qui symbolise la virilité. Et donc, tout le problème, c'est que les hommes ont un pénis, mais qu'en un sens, ils n'ont pas de phallus.
Si je vous comprends bien, quand on se préoccupe de la taille de son pénis, on cherche en fait à mesurer sa virilité.
Oui, exactement. Et si on le fait, bah, figurez-vous, c'est un peu et beaucoup à cause des Romains. C'est eux qui inventent le phallus comme symbole de virilité pour voilà notre ère culturelle. Et comme le montre Pascal Quignard dans son livre « Le sexe et l'effroi », le phallus est construit pour fasciner. Alors fasciner au sens strict, c'est-à-dire pour impressionner et aussi un peu effrayer. Fasciner pour exciter le désir avec ce mélange d'envie et de peur ou d'effroi. Mais le phallus, c'est aussi un sexe idéal, toujours en érection, tandis que le pénis, lui, ben, il alterne les phases d'érection et de mollesse ou de flaccidité, terme technique. La représentation idéale du phallus, elle est donc construite pour dépasser en fait les limites du pénis réel et imposer une norme de virilité. L'obsession de la taille, c'est donc le signe qu'on accepte cette norme finalement, et le problème c'est que cette norme-là, elle est contradictoire. En faisant d'un phallus démesurément grand et gros et toujours en érection la norme idéale du sexe, en fait on entretient aussi la peur de ne pas être à la hauteur en termes de centimètres et en termes d'érection. Bref, on entretient la peur de ne pas être un vrai homme. L'idéal ici, il n'est pas libérateur mais inquiétant. La virilité n'est plus l'horizon d'un épanouissement mais simplement une compétition. On peut le dire aussi autrement, la virilité qui repose sur le phallus est une virilité qui laisse beaucoup d'hommes sur le carreau de leur complexe. Alors, pour terminer, la question à 1000 points, c'est celle de la virilité indépendamment de la taille du sexe. Comment penser une virilité qui ne soit pas fondée sur le sexe ? Et réciproquement d'ailleurs, on peut poser la question, comment penser une féminité par exemple qui ne dépende pas d'un tour de poitrine ou d'un tour de hanche ? Alors la réponse reste à inventer, mais mon petit doigt, mon tout petit doigt, me dit qu'il faudrait arriver à penser une différence qui n'implique pas une hiérarchie. De même que c'est absurde de penser qu'une différence de couleur de peau signifie une infériorité ou une supériorité, eh bien de même, il est absurde de faire d'une différence de centimètres le signe d'une plus ou moins forte virilité.
La petite philosophie de Thibaut de Saint-Maurice. Et je tiens, je vous recommande un roman formidable qui met en scène la virilité de façon assez passionnante. C'est Un homme invrai de Tom Wolfe, justement, qui est disponible en ce moment chez Bouquin, chez Robert Laffont.